Le futur dépend-il de nos actions et de nos choix? Quel sera notre héritage? Quel impact avons-nous sur ce qui nous reste à vivre? Comment souhaitons-nous construire un environnement sain pour s'inscrire dans un bien ensemble? Bienvenue dans Aujourd'hui Demain, une invitation à la réflexion à travers les histoires de ceux qui nous entourent.
Le Red Bulletin.
Dans ce quatrième épisode, nous partons à la rencontre de la chef afro-végane Gloria Kabé. À travers son parcours, elle nous explique ses désirs, ses engagements et son rapport à la gastronomie.
Bonjour, je m'appelle Gloria Kabé, j'ai 34 ans et je suis chef afro-vegan basée entre Paris, Londres et le Brésil. L'afro-vegan, à mes yeux, ce sont les différentes cuisines en fait, des diasporas africaines à travers le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que du continent africain, il s'agit d'en fait tous les endroits où le peuple noir et les communautés noires ont pu voyager, se déplacer et ce qu'ils ont pu créer en fait, dans les nouveaux endroits où se retrouver. Donc on parle souvent aussi de cuisine ancestrale en fait, qui a voyagé parce que ça suit heureusement aussi le chemin de la colonisation, le chemin d'une histoire qui est assez lourde. Et moi je suis fièrement en train de représenter ces cuisines d'une manière saine. Pourquoi? Parce qu'on décide de retirer la viande, c'est vrai. Je n'apporte pas quelque chose de nouveau parce que je pense que pour la plupart de ces cuisines, elles étaient initialement véganes. Il s'avère qu'avec le temps, ensuite, les viandes ont été rajoutées. Elles ont pris une place un peu indispensable au centre de plusieurs tables, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et ce que je cherche à faire, en fait, c'est juste remettre ça au goût du jour avec une touche de modernité, de par les influences d'où je viens, en fait. Je trouve que cette cuisine végane, en fait, elle est littéralement à mon image. Une personne de culture afro-descendante, mais qui a évolué en Occident et qui est parfaitement consciente en fait d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Je me formalise pas à me dire que le véganisme, il a qu'un seul style. Et moi, je suis aussi un style dans l'afro-véganisme. Je suis pas l'afro-véganiste toute seule. Ça fait maintenant depuis 2015 où j'ai commencé à travailler comme chef afro-végane en Angleterre. Et je suis revenue à Paris en 2017. Et depuis 2017, je fais des allers-retours entre l'Angleterre, la France et le Brésil pour faire le métier que j'aime. Je n'ai pas eu un parcours classique. Avant de devenir chef, j'étais hôtesse de l'air et je dansais. Je faisais de la danse hip-hop. J'ai toujours dansé. Donc ça a été un fil conducteur dans ma vie. Et j'ai voulu faire le métier d'hôtesse de l'air parce que j'adorais voyager. L'idée, c'était de pouvoir toujours faire un métier qui me plaît, ne pas subir le métier que je faisais. Après quelques années en tant qu'hôtesse de l'air, je me suis rendu compte que je pouvais rapidement tourner en rond. Donc, j'ai peu à peu désisté. Et après avoir terminé mon job, je suis partie m'installer au Brésil parce que c'était aussi un autre rêve que j'avais. Une fois au Brésil, je suis arrivée là-bas en proposant des cours de danse, mais avec la petite idée en tête qui m'avait été mise par une amie avant de partir, d'éventuellement faire quelque chose dans la cuisine. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'idée très définie. Je pense que je partais sur une idée de travailler en tant que traiteur, proposer des services, de vendre vente à emporter, services à domicile, des choses comme ça, mais rien n'était vraiment défini. Et puis pendant mon voyage au Brésil, je me suis installée dans la ville de Salvador da Bahia, qui est dans le nord-est du Brésil, et qui est tout de même l'endroit où se trouve la plus grande diaspora africaine au monde, après le continent africain. Et je suis tombée amoureuse de la région et amoureuse de la nourriture afro-brésilienne. De ce moment-là, j'ai décidé petit à petit d'arrêter la viande, donc de tourner vers une alimentation végétarienne et végane. Il y avait largement tout ce dont j'avais besoin pour subsister sans viande. Et au retour de ce voyage, j'ai donc confirmé l'idée de travailler en tant que chef. Je suis partie à Atlanta et là j'ai fait la rencontre de l'afro-véganisme et alors tout s'est vraiment dessiné. En janvier 2015, je suis partie m'installer en Angleterre et j'ai commencé ma propre formation en tant que chef afro-végan. C'est-à-dire que je n'ai pas pris la décision de faire une formation classique via une école ou via des sortes de formations. J'ai décidé d'apprendre toute seule pendant plusieurs mois. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon meilleur ami vivait à Londres. Mon meilleur ami et associé avec qui on a fondé Hello Bonsoir, qui est notre première entreprise afro-vegan. Il vivait à Londres depuis des années, lui-même était vegan. Et en fait, il vivait dans une colocation, tout le monde était vegan. On était à peu près une dizaine de personnes. Un peu moins d'une dizaine de personnes, le chien aussi était vegan. C'est vrai. C'était un pitbull. Elle s'appelait Lupa, elle a énormément de force. Pour vegan. Et donc, dans cette colocation, j'ai eu la chance, en fait, de me former. Ce que je veux dire par me former, c'est-à-dire via beaucoup de documentation. Je n'avais pas peur d'aller travailler dans des restaurants, de faire des... De passer, en fait, par tous les métiers de la cuisine, que ce soit de faire de la plonge, de travailler comme commis, assister sur différents types de services dans des restaurants, chez des traiteurs. Et à côté de ça, prendre tout mon temps libre pour pratiquer des recettes afro-véganes que j'avais découvert via le chef Brian Terry ou d'autres en fait que j'ai décidé de créer moi-même.
Brian Terry est un chef afro-végan, éducateur et auteur reconnu pour son activisme en faveur de la création d'un système alimentaire sain, juste et durable. Depuis 2015, il est le chef en résidence du Museum of the African Diaspora à San Francisco, où il crée une programmation publique à l'intersection de l'alimentation, de l'agriculture, de la santé, de l'activisme, de l'art et de la culture de la diaspora africaine.
Après 8 mois de pratique, j'ai décidé de me lancer, de proposer mes services dans un restaurant dans l'est de Londres. Alors, l'idée, c'était de proposer la première soirée via Hello Bonsoir, donc la petite boîte qu'on avait créée, et d'offrir en fait une soirée autour de performances artistiques et de proposer une cuisine saine, mais tasty et fun. Les patrons ont adoré. C'était pendant la période du festival du Carnaval de Londres. Ils m'ont rappelé ensuite pour que je revienne travailler dans leur restaurant, toujours en proposant ma cuisine, ce qui m'a permis de prendre confiance. Et suite à ça, j'ai rencontré d'autres chefs en fait, qui m'ont aussi donné les opportunités de travailler avec eux, de me professionnaliser. J'ai toujours eu la place de faire mes propres recettes, ce qui a été vraiment assez surprenant. Jusqu'au moment où j'ai été appelée par ce chef qui initialement était venu visiter une chambre dans notre colocation. Et on lui a parlé de moi, un jour je n'étais pas là. Et il s'avère qu'il m'a rappelé, on a passé un entretien. Il voulait me proposer une mission qui durait à peu près 10 jours pour des clients très privés. Finalement, il a décidé de travailler avec une jeune chef végane avec qui il avait déjà travaillé auparavant, ce que je comprends totalement. Je suis rentrée en France pour passer les fêtes de Noël. Donc, on se trouve, je pense, le 22 décembre 2015, du coup. Et je reçois un appel, et c'est ce chef. Et il me demande pourquoi est-ce que je vais faire ce job. Je lui dis parce que c'est mon rêve, c'est le métier que j'ai envie de faire. C'est tout ce que j'aime. Et il me dit, OK, d'accord, je ne vais pas travailler avec la jeune chef dont je t'ai parlé parce qu'on a eu un différend. Et il me dit, est-ce que tu pourrais être à Londres demain matin à 7h? Il était 19h. Je lui dis oui. Donc, je me suis débrouillée à trouver les derniers transports disponibles qui pouvaient m'amener jusqu'à Londres le lendemain matin pour arriver en temps et en heure. Et on est parti pour une semaine, 10 jours de service privé pour Robert Pattinson et F. Catwigs dans un manoir privé. Et ça a été mon premier gros job en tant que chef vegan et afro-vegan. Il y a une petite anecdote, mais je ne sais pas si je peux la raconter là. Ça s'est bien passé. Bon, en Angleterre, ils vont un peu vite, etc. Et ils aiment bien consommer toutes sortes de choses. Je leur ai proposé de leur faire un space tea.
Space tea. Thé réalisé à partir de la plante préférée des personnages principaux du film Ho-High, interprété par Method Man et Redman, et réalisé par J.C. Byron Dillon.
Et c'était assez drôle parce que déjà, il y avait les parents, en fait, de F. Catwigs et Robert Pattinson, et leurs grands-parents. Et lorsque je suis partie leur apporter le thé, il y a des grands-parents qui ont voulu en prendre. Et il a fallu les esquiver dans tout le manoir pour qu'ils attendent le deuxième service de thé qui n'était pas, végétalisé. Je garde un souvenir très particulier de ce job, non seulement parce que c'était mon premier gros job en tant que chef et chef privé, mais aussi parce que c'était des clients assez particuliers qui ont été ravis du service qu'on a pu donner. J'aime beaucoup les prestations privées, les séminaires. Travailler comme chef privé, c'est toujours extrêmement drôle et intéressant de partager une intimité. Déjà que je partage une sacrée intimité en faisant manger pour des personnes. C'est-à-dire que je suis peut-être la relation la plus intime qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Après, le conjoint et le médecin. J'adore apprendre à connaître des gens. J'adore voir les gens agir autour de la nourriture. C'est fou. C'est fou tout ce qu'on découvre. Cet été, j'avais décidé de prendre un peu de recul parce que je savais que j'avais une rentrée assez chargée, dont une mission à Dubaï qui dure plusieurs mois et d'autres déplacements, des retraites de yoga en Afrique et d'autres services que je devais faire. Donc j'avais décidé de pas trop travailler. Et puis j'ai été contactée par un par le label de musique Because pour travailler comme chef privé pour une artiste que j'adore. Il s'avère que c'est Shai. J'ai accepté la mission. Et donc, l'idée, c'était de faire chef privé pendant un séminaire pour la préparation de son nouvel album. Là, par exemple, je ne sais pas si je suis en train de vendre la mèche ou pas. J'étais super ravie. Ils avaient loué pour l'occasion une magnifique villa dans les hauteurs de Aix-en-Provence, donc en plein mois d'août. Et il faisait très, 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 très chaud. Il faisait tellement chaud que la maison a pris feu. En plein après-midi, ce sont les voisins qui nous ont dit que la maison avait pris feu parce que ça brûlait d'un côté. Et en fait, on a dû quitter la maison en pleine nuit. Et comme c'était le plein mois d'août et que toute la France était concentrée sur la Côte d'Azur, il n'y avait strictement rien disponible. Parmi l'équipe, on avait Tortoise qui était là, qui lui est originaire de Grenoble. Et en fait, Grenoble, c'était la seule ville en France qui n'était pas trop loin, qui avait l'air d'avoir de la place dans les hôtels et d'avoir un studio disponible pour qu'il puisse continuer d'enregistrer. Donc en pleine nuit, on a pris deux taxi-vans, on a roulé pendant 5 heures pour arriver à Grenoble le lendemain matin. Avant de partir, je me suis demandé si ma présence était vraiment encore nécessaire. Étant donné qu'on allait se retrouver dans un hôtel et plus dans une villa, et que du coup, je n'avais plus vraiment en fait, la place d'exercer comme chef privé. Et la chose que j'ai adorée, c'est qu'on a été tellement soudés dans cette situation qu'ils m'ont dit « Non, tu pars avec nous !» Et on a trouvé une solution où j'ai pu cuisiner dans un endroit, leur apporter les repas à chaque fois au studio. Et ça a été magique parce que j'ai vraiment senti que je faisais partie intégrante de l'équipe. Ils m'ont fait écouter l'album en avant-première, enfin les titres qu'ils avaient enregistrés. Et j'étais contente d'avoir participé à ça et qu'on ait vécu cette situation incroyable tous ensemble. C'est ce que je préfère par-dessus tout. Quand je me retrouve en cuisine, je me dis, mais j'ai un aliment, je me dis, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là, de réfléchir, tac, 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 ça monte et là, j'y vais, je teste. J'ai plusieurs plats signatures. L'un de mes préférés, que j'aime le plus partager et dont j'aime le plus découvrir la surprise des gens lorsqu'ils le goûtent, ça va rester mon imitation du fried chicken. Parce que c'est peut-être le plat le plus populaire au monde. Dans tous les pays du monde, on a une version du fried chicken, littéralement dans tous les pays du monde. Il y a un amour pour le poulet qui est partagé aussi dans le monde entier. Et j'ai décidé de donner accès à mes amis véganes. Continuer d'avoir un amour pour ce poulet de manière végétale. Donc mon plat signature, ce sera littéralement ce fried chicken, qui est certainement l'une des premières recettes que j'ai travaillées et celle que je propose toujours autant, avec toujours autant d'amour et toujours autant de bonnes réactions. J'ai adoré, par exemple, faire découvrir le fried chicken vegan à des rappeurs. J'ai fait une fois un Catherine pour Gazo. Et en fait, son ingé son, il est vegan. Donc du coup, la maison disque a décidé de faire un Catherine fully vegan. Et du coup, ils ont mangé du fried chicken vegan. Ils étaient ravis. Tout est une surprise. Tout est une belle surprise. Je m'entoure là de superbes équipes. Là. Vraiment, même d'une équipe internationale, je peux me permettre de le dire, pour travailler sur ce que va être cette petite œuvre d'art. Ça va être mon gros bébé. Là, par exemple, je reviens de 2 semaines et demie à Dubaï. On a lancé le premier African Dining Hall, le premier food court de restaurant africain au monde. Et je suis ravie de faire partie des chefs qui ont été sélectionnés pour ça. Pour cette occasion, j'avais une batterie de... J'avais une sacrée petite brigade composée de personnes du monde entier. Ça a été un réel challenge parce que certains n'avaient pas d'expérience en cuisine. Et ça a été un challenge de leur faire comprendre ma vision, comprendre ma cuisine et de les voir en fait si fiers de représenter. C'était limite dur de partir. J'y retourne, hein, mais c'était dur de partir et de les voir en fait vraiment contents d'avoir travaillé avec moi tout autant que moi j'étais contente de les avoir rencontrés et travailler avec eux. On fait toujours de belles rencontres. Et moi, c'est ce que j'ai gardé. Par exemple, j'ai travaillé dans plusieurs endroits. C'est vrai que je suis chef indépendante, mais j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai fait du consulting, j'ai été chef dans des restaurants. Donc, j'ai rencontré énormément de monde. Et puis surtout, j'ai pas eu peur aussi d'aller travailler pour d'autres personnes et continuer en fait à étoffer mon réseau. Et de là, en fait, j'ai gardé de très bons contacts, très bons échanges avec la plupart des gens avec qui j'ai travaillé tout de même. Et cela, en fait, ça m'a permis, au fur et à mesure, moi-même, de composer mon équipe. À partir du moment où, avec les personnes, on se retrouvait avec un intérêt commun pour la cuisine, un amour commun ou juste une vision commune, ça nous a toujours permis de se dire bah, « j'aimerais beaucoup refaire quelque chose avec toi ou travailler pour toi ». Ou des fois, tout simplement, ce sont les gens avec qui je travaille qui m'appellent et qui me disent « ne m'oublie pas, j'ai envie de bosser avec toi ». Et ça m'a toujours beaucoup, 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 beaucoup flatté de me dire qu'au final, les traces que je pouvais laisser de mon passage en cuisine étaient majoritairement positives et d'avoir rencontré des gens qui avaient la volonté de travailler avec moi. Que ce soit en France, en Angleterre ou bien au Brésil, il y a toujours eu une ou deux personnes en fait, qui sont restées dans ce cercle proche et qui sont devenues la famille en fait, de la cuisine. C'est agréable de pouvoir dire que je travaille avec des gens sur qui je peux compter. Afro Vegan to the world, baby. Sipeng Cooking revient en force. Sipeng Cooking, c'est tout simplement un programme qui permet à des personnes de prendre des cours de cuisine à distance, avec moi, en ligne. Selon les choix de package, on vous fait parvenir la liste entière des ingrédients. Vous n'avez totalement pas à vous déplacer, juste à vous présenter sur le lien Zoom le jour du cours de cuisine. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire livrer les ingrédients chez eux, mais qui peuvent avoir une main en fait sur les ingrédients, la liste d'ingrédients, et ils peuvent aller les récupérer eux-mêmes. Donc c'est vraiment bien parce que peu importe où vous êtes dans le monde, si vous êtes capable de vous connecter à l'heure de la session et d'avoir accès aux ingrédients, vous êtes les bienvenus. Ça a été une superbe initiative qui est née pendant le confinement. C'était de pouvoir répondre au fait qu'on était tous bloqués au premier confinement avec l'impossibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Les restaurants, les prestations étaient vraiment au point mort à ce moment-là. Et on a quand même proposé des alternatives où les gens pourraient ne serait-ce qu'interagir entre eux, voir du monde, s'amuser autour d'un cours de cuisine. On vous offre une petite boisson et une playlist tout au long. Ça reste fun et ça a été tellement une idée qui a été appréciée qu'il y a plusieurs entreprises en fait qui ont décidé d'offrir ces services dans les cas de séances de team building. Et on est ravis en fait d'avoir participé à ça, d'avoir permis d'aider en fait des gens d'une manière ou d'une autre. Et on est content aussi parce qu'il y a plusieurs programmes aussi associatifs en Angleterre qui ont décidé de proposer ces cours aussi pour des jeunes en fait qui n'ont pas accès à ce genre de services, pouvoir apprendre à faire des recettes saines à la maison. Parce qu'en Angleterre, c'est vrai qu'il y a un vrai problème autour de l'alimentation chez les jeunes. Ils peuvent, pour moins de 2 livres, s'acheter une portion de poulet frit, une frite et une boisson énergisante.
Selon un rapport de l'UNICEF, en Angleterre, les taux de surpoids et d'obésité infantile sont 2 fois plus élevés dans les régions les plus pauvres. Ces régions comptent aussi 5 fois plus d'enseignes de restauration rapide que les régions les plus aisées. Et souvent, les aliments sains coûtent plus cher que les produits néfastes pour la santé.
Proposer en fait aux enfants et aux parents de participer à des cours de cuisine et d'apprendre des choses saines ensemble, ça permet en fait de consolider des relations, mais aussi de donner d'autres perspectives et options aux enfants dans leur alimentation. Parce que pour moi, le focus, il reste sur les générations à venir. La jeunesse, c'est sur eux qu'on doit cibler un maximum. Les informer, les éduquer le plus tôt possible, ça reste une de mes missions les plus importantes, à mes yeux. C'est marrant parce que je fais les choses naturellement. Ça peut-être paraître banal, mais de la même manière que j'ai décidé au culot de devenir chef, j'ai décidé de devenir une sorte de chef. J'avais ma vision de ce que je voulais être. Et c'est vrai qu'il y a quelques codes que j'avais envie de briser. Je suis ravie, en fait, d'être comptée parmi les chefs afro-véganes en France parce que je sais la représentation de la gastronomie française aux yeux du monde. Je suis ravie que des festivals comme Taste of Paris me contactent, en fait, pour pouvoir intervenir. Et je suis ravie, en fait, qu'ils acceptent de proposer ces nouvelles formules. On me classe souvent dans la case de nouvelle cuisine, ça me va très bien. Mais je viens aussi avec la case de la nouvelle génération de chefs. Chef Binta, qui est une chef du Sierra Leone, initialement qui vit au Ghana, qui vient de gagner le Chef Award à Amsterdam, donc Big Up Africa. Franchement, elle nous honore, elle est géniale. Jevé Malonga, chef Serine Bain, Freddy's Kitchen, Maurice Acco, chef Quentin Perron, chef Aki, disciple du docteur Sebi, qui est à l'origine des différents plans d'alimentation alcaline.
Mis en avant grâce à la déclaration de Nipsey Hussle dans l'émission de radio The Breakfast Club en avril 2018, le rappeur disait travailler sur le documentaire d'un procès en faisant référence au docteur Sebi. Herboriste de profession, il n'en reste pas moins que Sebi a inspiré le régime alcalin réducteur de mucus composé d'aliments végétaux non hybrides qui contrôle le niveau d'acide dans le corps et préviendrait des maladies.
On est plus issus de milieux différents. On est plus de femmes présentes. On est beaucoup plus de personnel noir, arabe, chinois, indien à être mis dans des postes plus importants que ceux de commis ou de plongeur. On est aussi beaucoup plus de femmes à refuser de dire non à des injonctions qui nous ont bien trop été imposées. Et on est aussi beaucoup plus de personnes créatives à vouloir promouvoir notre art sans pour autant manquer de respect au savoir-faire qui a toujours été présent. Et le savoir-faire, il n'est pas que dans la technique, il est aussi dans la transmission. Cependant, tout comme le monde avance, il y a aussi des mœurs qui doivent avancer, des mentalités qui doivent évoluer, et certaines rigueurs dans l'univers culinaire français doivent aussi s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il y a des oui chefs qui doivent rester, il y a d'autres vocabulaires qui doivent sortir. Et c'est ce que je propose à toute personne qui travaille avec moi. Je n'impose rien, je propose. Si ça ne convient pas, la porte est toujours ouverte, que ce soit pour entrer ou sortir. Mais je ne vais pas bêtement me plier à des rigueurs qui ne me parlent pas. Donc je vais tout simplement aller déranger personne et je vais faire moi ce qui me plaît. Je pense que la vie, elle vaut d'être vécue si on se permet de vivre nos rêves. Et pour moi, la vie, c'est une succession de rêves que je réalise. Et l'un de mes rêves les plus ultimes, c'est de travailler comme naturopathe et de soigner via la nourriture. Toute l'idée même de travailler comme chef afro-vegan était basée sur cela. Je m'explique, c'est-à-dire que depuis des années, peut-être des millénaires, on a toujours soigné via l'alimentation. On s'est toujours servi de ce qu'on avait autour de nous comme une pharmacie à ciel ouvert. Une fois de plus, je remets ça au goût du jour parce qu'on se retrouve là aujourd'hui dans une société où, par toutes les modernités par lesquelles on est passé, on en a oublié beaucoup d'essentiels. Et je pense même à moi, ma génération, on est dans une génération du micro-ondes, la cuisine moléculaire et toutes ces choses-là. C'était génial sur le papier, le résultat est catastrophique. Il y a d'autres formes de cure que le comprimé enrobé blanc dont tu ne connais pas la composition. Et j'ai envie de prouver que via la bonne association d'aliments, on arrive peut-être à d'aussi bons résultats. Si ce n'est mieux en fait avec une pérennité, parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires avec un bon repas qu'avec des traitements, certains traitements. Je ne dis pas vouloir soigner le monde entier, je ne pense pas en plus en avoir les connaissances encore. Cependant, je voudrais dédier le reste de ma vie à ces recherches et à pratiquer un maximum jusqu'à ce que je parte. Je pense que j'aurais pu être une simple chef aussi. Pas me retrouver là à parler de ce que je fais, du message que je veux aussi apporter à travers mes plats. Je peux laisser juste mes plats parler, pas faire tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une nécessité d'information. Parce que ce qui nous fait prendre autant de décisions qui ne sont pas les plus bénéfiques pour nous, c'est le manque d'information. Il y a toujours un manque d'éducation. Dommage.
Je suis Marie-Maxime Dricot, c'était Aujourd'hui Demain, un podcast du Red Bulletin, réalisé avec l'aide de Jérôme Caron. Merci de l'avoir écouté, et si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager.